Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Parler de race en France est difficile. L'unanimité, les députés voulaient il y a quelques années supprimer le mot de la Constitution. Et cela au nom de la colorblindness de la République, de son indifférence proclamée à la couleur de peau. Dans le même temps, pourtant, les mêmes parfois qui se drapent dans ces grands principes célèbrent le métissage. Et pour comprendre ce paradoxe et mieux analyser l'omniprésence de la race, c'est-à-dire souvent du racisme, dans la société française, la sociologue Solène Brun a fait de cette condition métisse un prisme. Elle est cette semaine l'invitée de la suite dans les idées. Bonjour Solène Brun.
Bonjour.
Avec vous, en seconde partie, elle est déjà en ligne avec nous, nous rejoindra Rebecca Chaillon. Bonjour. Vous êtes metteuse en scène, vous êtes autrice et vous êtes actrice performeuse. Vous n'êtes pas avec nous en studio parce que l'un de vos spectacles est donné actuellement au théâtre de Gennevilliers. J'ai eu l'occasion de voir il y a peu Carte Noire nommée Désir, dont on parlera dans la seconde partie de l'émission. C'était un spectacle, je pense, très 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 fort et très important et qui résonne à bien des égards avec cette enquête de Solène Brun. Solène Brun, vous êtes sociologue, donc je le disais, chargée de recherche au CNRS et vous publiez aux éditions La Découverte, derrière le mythe métis, enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France. Alors c'est une enquête de sociologie, on va y venir, pour laquelle vous avez à la fois rencontré un certain nombre de gens concernés par cette condition métisse, mais aussi pour laquelle vous avez étudié, regardé, préanalysé un certain nombre de statistiques disponibles, même s'il s'agit toujours d'approximations par rapport à des situations que la statistique publique française peine à saisir. Et puis vous avez remis aussi les choses dans une forme de perspective historique. Et peut-être peut-on commencer par là et commencer par la raison pour laquelle vous avez choisi d'utiliser ce mot de mythe en renvoyant classiquement à ce que Roland Barthes entendait par là.
Ouais, je me suis dit que le terme de mythe était une bonne manière en fait de justement peut-être analyser ce paradoxe dont vous parliez, c'est-à-dire cette idée que, et à un moment je l'écris dans le livre, je dis... En France, la race n'existe pas et pourtant le métissage est partout. Ce qui me paraît être un paradoxe, étant donné à quel point le terme de métissage, son histoire coloniale, est saturé de race à tous les endroits. Et du coup, je me suis demandé justement qu'est-ce que ça disait, qu'est-ce que ça racontait, cette omniprésence du métissage, ces ambivalences aussi, peut-être on pourra y revenir, mais en tout cas, dans la période des années 80 jusqu'à la fin des années 90 en France, une espèce de prolifération de discours très mélioratifs sur le métissage, dont il me semblait, en lisant Barthes en effet, que sa manière de parler du mythe comme de quelque chose qui en fait cache une autre réalité, il dit en fait il y a ce qu'on peut voir et ce qu'on peut lire et puis il y a le message caché derrière, c'est comme ça qu'il parle du mythe, il dit le mythe est une parole, et bien justement je me disais que ça s'appliquait assez bien à ce cas-là, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quel était le message caché derrière cette célébration du métissage.
Alors le message caché, c'est l'omniprésence en fait de la race, alors même que on a du mal à employer le mot, que certains voudraient l'effacer, etc. Donc au fond, votre démarche à partir de là, une fois que vous qualifiez le métissage de mythe, votre démarche consiste au contraire à prendre cette situation, cette condition métisse, pourrait-on dire, en écho au titre du livre de Pape Ndiaye, la condition noire, pour voir de manière expérimentale, d'une certaine façon, pour voir ce que cette condition révèle de l'omniprésence des considérations, des catégories raciales, de ce que, aux États-Unis, on a l'habitude d'appeler la ligne de couleur. Et en France, on s'habitue peu à peu à cette expression.
Oui, tout à fait. Et je pense même que, c'est-à-dire que ce qui cache, c'est cette omniprésence de la race, mais ce qui se cache aussi, c'est une certaine manière dont on accepte de parler de la race. Et c'est ce que je raconte dans la première partie du livre, en analysant un peu justement cette séquence des années 80-90, où j'essaye par pas mal de petits bouts, en analysant les discours politiques, mais aussi des séquences culturelles, de montrer à quel point, finalement, le discours de la célébration du métissage est une manière de livrer une certaine vision de la France, une certaine vision aussi des relations entre la France et ses anciennes populations colonisées et du coup ses populations immigrées et descendantes d'immigrés en France. Et ce que ça cache aussi, et à mon avis ce qui est central dans le livre, c'est la manière même dont on envisage le racisme en France, en fait, il me semble. Ce mythe métisse, il fait comme si, en fait, la question centrale du racisme était la haine, et que du coup, face à la haine, la réponse, ou l'inverse, c'est l'amour. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, alors les couples mixtes et leurs enfants sont une réponse au racisme.
C'est la solution. Voilà. On règle le problème du racisme avec, entre autres, le métissage. En fait, le racisme, c'est plus compliqué que ça. Cette étude du métissage permet de voir aussi certaines des dimensions du racisme au quotidien, du racisme ordinaire, qui n'a rien à voir avec la haine, mais qui n'en produit pas moins des effets assez considérables sur les personnes qui en sont victimes, malgré tout. Mais ça, on va avoir l'occasion d'y revenir. Votre enquête, vous l'avez menée de manière, au fond, relativement chronologique. En tous les cas, vous l'exposez de manière chronologique dans le livre, parce que pour produire cette condition métisse, il faut d'abord avoir des couples mixtes. C'est l'expression consacrée. Et vous revenez d'ailleurs sur cette expression, parce que derrière couple mixte, on entend parler... c'est une expression qui a eu une histoire et qui ne veut pas toujours dire la même chose. Par exemple, pour l'INSEE, vous m'avez appris que dans le livre, couple mixte, c'est tout simplement une histoire de nationalité. En fait, pour les sociologues, pour les anthropologues, ça peut avoir d'autres significations.
Ouais, en effet. C'est vrai que, disons, pour la statistique publique, un couple mixte, c'est plutôt un couple entre une personne française et une personne étrangère. Et en même temps, on pourrait dire la mixité, en fait, c'est aussi, et ça a aussi été pour la sociologie, une mixité de classe. Mais en réalité, on pourrait dire que, d'ailleurs, les couples hétérosexuels sont des couples mixtes, puisque la mixité de genre, c'est aussi, enfin, l'expression mixité, d'ailleurs, beaucoup, et désigne assez souvent en France, d'ailleurs, plutôt la mixité entre filles et garçons ou entre hommes et femmes. Et là, en effet, moi, je me suis intéressée à une forme très particulière de mixité dont, en réalité, on parle assez peu, on a assez peu parlé en sociologie française, qui est une mixité de ce que j'appelle de position raciale, c'est-à-dire des couples qui sont formés par une personne qui est racialisée comme blanche au quotidien, qui occupe cette position-là dans la société, et une personne qui est racialisée comme non blanche, quel que soit en fait son lien à la migration. Ça peut être des personnes étrangères, mais ça peut être des personnes qui sont françaises immigrées, mais aussi des deuxièmes générations, des troisièmes générations, ou des ultramarins, ultramarines, qu'ils se trouvent ne sont pas perçus comme blanches au quotidien en France.
Alors comment on peut appréhender cette population statistiquement, du coup, et comment vous avez décidé de l'appréhender en utilisant les statistiques dont vous disposiez et puis après en allant à la rencontre d'un certain nombre de personnes dans cette situation?
Alors statistiquement, on est obligé de se limiter à une définition par le lien à la migration. C'est-à-dire qu'on n'a pas de statistiques de grande ampleur qui, par exemple, posent des questions d'auto-identification. Donc j'ai été obligée de passer, vous le disiez au début, par une approximation, c'est-à-dire de regarder en réalité les couples formés par des membres de la population majoritaire, c'est comme ça qu'on dit en statistique. Donc ils sont des personnes qui n'ont pas de lien à la migration sur 4 générations, et dont, en gros, on considère qu'elles sont, on les appelle la population majoritaire française, et ensuite de voir les couples que ces personnes-là forment avec des immigrés ou des descendants d'immigrés. Et donc de passer par cette approximation-là, qui laisse de côté les troisièmes ou les quatrièmes générations. On peut prendre en compte les outre-mer, disons à part, pour les inclure dans cette définition de la mixité. Donc ça donne une certaine vision qui est approximative, mais qui est quand même un peu voilà, qui donne quand même des éléments
notables. Des ordres de grandeur, oui.
Voilà, des ordres de grandeur, tout à fait. Et si on regarde ces ordres de grandeur, et d'ailleurs les données que j'expose dans le livre viennent d'être réactualisées par les collègues de l'INED et de l'INSEE avec la deuxième vague de l'enquête trajectoire et origine. Et donc, selon ces données-là, en gros, 12% des personnes donc majoritaires en France sont en couple mixte. Et c'est assez intéressant parce que si on regarde par contre plutôt du côté des immigrés de la première génération, c'est 29% des immigrés de la première génération qui sont en couple avec une personne majoritaire, 45% de la deuxième génération qui est en couple avec une personne majoritaire, et 3/4 des descendants de couples mixtes qui seraient du coup définis comme les descendants de ceux d'un parent majoritaire et d'un parent minoritaire. Donc en réalité, ceux et celles qui se mélangent le plus sont ceux qui ont un lien direct à la migration. Et c'est pas étonnant, il y a aussi des raisons démographiques à ça. Mais donc ça concerne une partie non négligeable de la population française.
Alors, dans cette partie non négligeable de la population française, vous avez constitué un petit échantillon, cette fois pour une approche qualitative, une approche d'entretien. Et j'imagine, enfin, à la lecture de votre livre, on voit que vous êtes allé chercher des situations différentes qui contrastent en termes d'origine, précisément, en termes d'âge aussi, de génération. Enfin, vous avez essayé d'avoir des exemples les plus différents possibles.
Ouais, donc
pas forcément représentatif par rapport à la population française, c'était pas l'idée.
Non, c'est pas l'idée, parce qu'en fait, sur un petit échantillon, ce serait d'ailleurs pas possible. Mais j'ai rencontré donc environ 35 personnes qui sont donc des parents en couple mixte et ensuite des descendants de couple mixte et 38 en fait. Et du coup, en effet, j'ai essayé de faire varier à la fois les générations, parce que, et d'ailleurs, on s'en aperçoit en lisant l'enquête que...
Les choses bougent, oui.
Voilà, les choses bougent. Il y a des effets de génération, c'est en effet pas la même chose. Pour, par exemple, la plus âgée de mes enquêtées qui a eu ses enfants, que j'appelle Denise dans l'enquête, et qui voilà, a eu ses enfants avec son conjoint qui est de nationalité camerounaise, et elle a trois enfants qui, au moment où je les rencontre en 2017, ont tous une cinquantaine d'années, et donc elle a élevé ses enfants dans les années 60 en France, dans une petite ville de province. C'est pas la même chose que d'élever des enfants dans les années 90, qui sont, y compris, pas la même chose que de les élever dans les années 2010, par exemple. Donc il y a en effet des effets de contexte, aussi sur la manière dont on parle de ces questions, et dont ces sujets sont parlés voilà, l'actualité médiatique, politique, la manière dont on les pense, ça crée des effets, ça crée des effets sur, du coup, aussi les descendants de couples mixtes que j'ai rencontrés. Et puis j'ai voulu aussi faire varier, bien sûr, les origines, vous le disiez, et les classes sociales, puisque c'est aussi pas la même chose. Ça, la sociologie le sait bien. On n'élève pas ses enfants de la même manière selon qu'on appartient aux classes supérieures ou aux classes populaires.
Alors, ce qui vous intéresse au-delà de ces couples, c'est la manière dont ils font famille. C'est des couples qui ont des enfants, et c'est ça qui vous intéresse, puisque ces enfants sont métis. Et vous avez tenté de comprendre comment ces enfants ont été socialisés, comme on dit, à cette question du métissage à travers leurs parents, à travers leur famille un peu plus élargie, et puis évidemment en relation avec les institutions de la société, à commencer par l'école qui joue un rôle très très important.
Ouais, ce qui m'intéressait en fait, c'était vraiment de me poser la question, qu'est-ce qui se passe quand... Dans ces familles qui, quand même, demeurent en réalité minoritaires, les enfants et les parents n'occupent pas la même position racialisée dans l'espace social. C'est-à-dire qu'on a un parent qui est blanc et qui vit une expérience de personne blanche dans le monde, dans son quotidien, et qui se retrouve en position d'élever des enfants qui, a priori, peuvent être et souvent ne sont pas racialisés comme blancs. Et donc d'essayer de voir justement... Déjà, qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit dans ce qui est transmis, ce qui est pas transmis? Qu'est-ce que ça produit dans les manières de se construire, de se percevoir, mais aussi d'être perçu par les autres? C'est-à-dire de m'interroger à tous ceux qu'on intériorise, qu'on incorpore de manière d'être, de pratique, de rapport à soi et aux autres, de manière de se comporter, qui ensuite peuvent servir de support de racialisation aux autres, c'est-à-dire que quand ils nous voient nous comporter de telle ou telle manière, ça peut orienter leur manière de nous catégoriser.
Je disais tout à l'heure, il y a un caractère expérimental dans le choix de votre objet, qui est un choix qui permet de penser, de regarder, d'appréhender un certain type ou plusieurs types de racisme d'ailleurs. Ça arrive très tôt, dès les couples mixtes d'ailleurs, la personne qui est dans la population majoritaire fait l'expérience du racisme ordinaire vécu par son compagnon ou sa compagne, comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. En fait, il y a quelque chose de... on a accès soudainement à des informations sur la façon dont la société fonctionne, qui était jusque-là masquée, voilée, tout simplement, parce qu'il ne s'agit pas de choses spectaculaires nécessairement, il ne s'agit pas de haine, vous le disiez tout à l'heure, mais néanmoins, il s'agit de manières de catégoriser, de classer les gens, de les renvoyer à un certain type de choses, de les assigner. Et il y a un effet de choc et de révélation dont vous parlez.
Oui, en effet. Les parents qui sont blancs dans l'enquête et qui, du coup, ont eu, puisque certains couples sont séparés quand je rencontre les parents, mais ont eu un ou une partenaire qui fait l'expérience d'être racialisée comme non blanche au quotidien, en effet, raconte en fait quelque chose qui relève de l'inédit pour elle et de l'inédit aussi parce que le propre justement d'être blanc dans une société majoritairement blanche, c'est de naviguer le monde avec une relative insouciance quant à ces questions-là, c'est-à-dire de ne pas être en réalité renvoyé constamment à sa position raciale, à ces questions-là, de ne pas forcément se demander tout un tas de choses qu'on se demande quand on n'est pas perçu comme blanc. Et tout à coup, en effet, ils ont accès de manière très intime, puisqu'il s'agit des partenaires amoureux, à des expériences ordinaires, parfois violentes et parfois, comme vous disiez, qui relèvent plus de ce qu'on pourrait appeler des microagressions, des vexations quotidiennes. Mais quand même, la plupart expriment leur étonnement, c'est-à-dire disent évidemment que je savais que le racisme existait, mais je n'avais pas conscience que c'était
omniprésent.
Voilà, omniprésent tout le temps par des petites choses que en fait tout à coup il faut se demander quel nom on met sur il y a un père que je rencontre et qui dit nous c'est simple, on peut pas mettre mon nom de famille lui il est d'origine algérienne, on peut pas mettre mon nom de famille à moi quand on fait des demandes pour des locations de vacances, clairement on met celui de mon épouse qui a gardé son nom de jeune fille. Et ça, non seulement l'épouse du coup le découvre, mais c'est aussi quelque chose qui est transmis aux enfants. Donc en l'occurrence, ce couple a deux fils, et ces garçons-là, ils grandissent dans un monde dans lequel ils intériorisent que s'ils mentionnent le nom de famille paternelle, potentiellement ça leur ferme des opportunités. Alors parfois, c'est pas forcément des choses, comme vous disiez, spectaculaires, sauf que les choses s'ajoutant les unes aux autres, ça crée un quotidien qui est marqué par cette altérisation-là.
Et ce sont des socialisations particulières, parce que c'est dès le plus jeune âge, en fait, qu'on entend ces choses, qu'on est témoin, puis acteur de ce type de choix ou de stratégie. Par exemple, un choix et une stratégie à propos de nom, c'est le choix du prénom. Vous y passez, parce que les parents peuvent décider, évidemment, que l'idéal, c'est de transmettre à leurs enfants des éléments de culture qui viennent de l'un et de l'autre, qu'il s'agisse de rapport à la culture au sens matériel du terme, de la cuisine, de je ne sais quoi. Mais il faut bien choisir un prénom. Et donc là, il y a une forme de priorité. On peut mettre plusieurs prénoms, mais il y a quand même une forme de priorité. Donc c'est un moment particulièrement important.
Ouais, c'est un moment très important et c'est un moment que moi, personnellement, en tant que sociologue, je trouve fascinant. Parce que le choix du prénom, qui est d'ailleurs, souvent on dit, c'est la première chose qu'on donne aux enfants, cristallise tout un tas de questions, cristallise un certain rapport à au type d'identité qu'on a envie de transmettre, un rapport à quelle inscription dans les lignées respectives on a envie de mettre en place, quel est le rapport à ses origines personnelles. Et aussi, c'est un moment potentiellement de négociation, de rapport de force entre époux, parce que en fait, potentiellement, il y a des couples dans lesquels on n'est pas d'accord. Dans les couples aussi, on n'occupe pas tout à fait la même position dans les rapports de pouvoir, que ce soit de classe, de genre en l'occurrence, mais aussi là de race. Et du coup, pour moi, demander aux gens que je rencontre comment ils ont choisi le prénom des enfants était vraiment une porte d'entrée vers tout un tas d'autres questions et d'autres rapports à la transmission. Et puis, il y a un côté rigolo aussi de voir du coup un peu les récits. Et il y a un enquêté qui raconte, que je trouve très drôle, il dit en fait c'est horrible parce que il dit qu'avec sa conjointe, ils avaient l'impression de faire des choix très singuliers. Ils ont passé beaucoup de temps en plus à faire des listes de prénoms et à vraiment, ils disaient, nous, on voulait absolument pas tomber dans ce truc de, on donne un peu de l'un, un peu de l'autre et on va faire un prénom qui l'ancre dans les deux cultures. Ils voulaient résister un peu à ce qu'ils percevaient, je pense, comme une forme d'essentialisation. Et donc, ils s'est dit, on s'est mis avec ma compagne et puis on a fait ces listes et on s'est dit qu'on venait d'inventer un prénom. Et en fait, très rapidement, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas du tout inventé de prénom. Finalement, ils sont tombés sur un prénom qui existe et qui est en plus exactement ce qu'ils voulaient éviter. Et un autre enquêté, un descendant de couple mixte, lui résume ça en disant c'est ces prénoms un peu qui pourraient être berbéro-breton, il dit. Il dit c'est ce truc dont Naël, par exemple, pourrait être un exemple. Et donc le père m'a dit, en fait, j'ai compris que on s'était gouré quand j'ai entendu ma mère dire avec son accent algérien prononcer le prénom Naël. Et il s'est dit, en effet, c'est un prénom exactement de l'entre-deux, c'est un prénom qui peut être un prénom arabe et un prénom français, breton. Et j'ai trouvé ça hyper touchant aussi de voir à quel point il racontait avoir essayé de s'extraire de détermination et à quel point, en fait, au final, il est retombé là-dedans. Et évidemment que, il est content du prénom choisi, mais il disait que c'était quand même ça qu'on avait voulu éviter et on n'a pas réussi à l'éviter.
Alors il y a le prénom, il y a la langue, il y a la religion, il y a tout un tas de choses qui se passent à l'intérieur des familles et des choix qui sont faits, famille nucléaire mais aussi famille élargie puisque le rôle des grands-parents est très très important également. On n'a pas le temps de rentrer dans tous ces détails, le livre est très dense s'agissant de tout cela. Et puis il y a aussi ce qui concerne les interactions de la famille avec le monde extérieur et avec les institutions en particulier. Et là, les expériences du racisme ordinaire, qui ne sont pas toujours les mêmes non plus en fonction du genre, en fonction de la couleur de la peau, mais qui existent. Et en particulier, vous notez la façon dont... à propos des choses qui changent, la façon dont ce que les Américains appellent « the talk », c'est-à-dire la discussion que les parents doivent avoir pour prévenir leurs enfants à un certain âge, l'âge auquel ils commencent à sortir tout seuls dans la rue, et les garçons en particulier, pour les prévenir des difficultés spécifiques qu'ils risquent de rencontrer du fait de la couleur de leur peau et en particulier dans les interactions avec la police. Et vous dites ça, c'est des choses dont on parlait assez peu en France il y a encore quelques années. Et il y a un début de changement de ça. On commence véritablement à entendre ce type de pratiques en fait à l'intérieur des familles qui sont absolument nécessaires pour pouvoir circuler dans la ville aujourd'hui.
Ouais, absolument, et c'est vraiment, et du coup je raconte ça dans le livre, ça a été aussi un sujet un peu d'étonnement pour moi, parce que quand j'écrivais donc ma thèse de doctorat, donc je vais être en rédaction en 2018-2019. En effet, je raconte, pour introduire un peu la question de l'anticipation du racisme, de la préparation des enfants, en introduction, je dis, évidemment, C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle The Talk, donc avec un T majuscule, donc la discussion avec un D majuscule, qui en fait est donc ce que vous disiez, qui concerne d'ailleurs spécifiquement les familles africaines américaines, donc qui sont noires aux États-Unis. Et je disais, bah voilà, aux États-Unis, c'est carrément une pratique qui a un nom, qui est un peu institutionnalisée. Enfin, tout le monde ou toutes les personnes noires aux États-Unis savent ce qu'est le talk. Et voilà, il y a tout un tas de contenus culturels, de films qu'ils mettent en scène, de voilà,
de publications, de discours.
Ouais, exactement, exactement. D'ailleurs, je raconte dans le livre qu'il me semble que le livre de Ta-Nehisi Coates, Une colère noire, est en fait The Talk mis en livre, où en fait il passe son livre à en fait raconter à son fils de 15 ans et à le prévenir de ce que c'est qu'être un garçon noir aux États-Unis. Et donc, pendant que j'écris ma thèse, je me dis, bon bah voilà, c'est sûr qu'en France, c'est pas la même chose parce que on n'a pas une telle institutionnalisation, d'une telle discussion. Et donc voilà, je finis ma thèse et puis je continue quand même à travailler un peu sur ces objets. Et en 2020, il y a un article qui est publié sur le site de France Info et qui, en fait, est précisément à ce sujet. Et c'est un article qui raconte justement les précautions et les manières qu'ont les parents qui sont désignés comme dans l'article directement noirs et arabes. Et c'est notable, ils sont pas désignés comme immigrés justement, ils sont noirs et arabes. Comment eux préparent leurs enfants. Et je me dis, ah, c'est quand même intéressant que dans un média généraliste, on parle de ça, et on parle directement de ça, y compris à travers le prisme de la question raciale, puisque c'est bien ce prisme-là qui compte, puisque c'est une discussion qui prend pour objet les interactions qu'on subit parce qu'on est perçu comme appartenant à tel ou tel soi-disant groupe racial. Et donc 2020, voilà cet article. Et au moment où j'écris le manuscrit, donc encore un peu plus tard du livre, mon éditrice me dit, mais est-ce que t'as vu, il y a une BD aux États-Unis qui est sortie qui s'appelle The Talk et elle vient d'être traduite en français. Je me dis que, en effet, ne serait-ce qu'entre la fin de mon enquête et la publication de ce livre, les choses bougent. Les choses bougent d'ailleurs assez rapidement ces dernières années sur la manière dont on a de parler de ces objets. Et donc
la couverture de Black Lives Matter en France.
Oui, voilà.
Je pense que ça a joué beaucoup.
Bien sûr, ouais. Et donc c'est vrai que des médias généralistes commencent à parler de ça et à parler de ce que certaines familles de toute façon faisaient depuis un moment, mais aussi de ce que certaines familles ne faisaient pas pendant longtemps, voilà, dans des familles noires en France, c'était pas forcément des discussions que tous les parents avaient. Et je pense que ouais, là-dessus il y a aussi un effet de génération. Et moi, je rencontre une partie de mon enquête se passe au moment de l'affaire dite affaire Théo, hein, de l'affaire de Théo Louaka, et des parents que je rencontre m'en parlent en fait spontanément et me disent qu'ils en ont parlé avec leurs enfants, parce que et c'est d'ailleurs des mères, hein, qui me disent ça, des mères qui elles-mêmes sont blanches et qui me disent que ça les inquiète et que d'ailleurs toutes ne savent pas exactement comment en parler aux enfants, parce que voilà, elles ont peur de, elles veulent à la fois pas complètement attaquer l'innocence de leurs enfants et en même temps les prévenir. Mais ces discussions dans certaines familles, évidemment pas toutes, mais ont lieu en effet.
C'est un équilibre très délicat à trouver, la manière de faire comprendre à ses enfants dès le plus jeune âge en fait qu'il existe ce racisme ordinaire et sans pour autant faire que leur vie tourne autour de ça non plus. Autre situation que vous avez observée de près à propos de cette condition métisse, au fond la situation étrange dans laquelle se trouvent plus ou moins certains métisses d'être difficilement assignables à la simple vue des gens qu'ils rencontrent dans la rue. Les gens savent pas très bien en fait de quoi ils retournent.
Ouais, exactement, et c'est d'ailleurs une des choses qui, moi, m'intéressait le plus, parce que, au final, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est justement de comprendre ce processus de racialisation, c'est-à-dire ce processus par lequel,
qui est une interaction, forcément.
Qui est
c'est un regard porté.
Voilà. C'est-à-dire, comment ces frontières raciales se fonctionnent, comment elles se créent. Alors, évidemment, à l'échelle des groupes, à l'échelle de l'histoire, mais aussi au niveau des individus, justement, quand, les marqueurs phénotypiques, qui sont souvent les premiers marqueurs qu'on utilise pour racialiser, quand cela ne suffisent pas, qu'est-ce qui est mis en jeu ? qu'est-ce qui est mis en jeu pour classer les gens, pour les assigner, etc. Et c'est là qu'intervient la question des pratiques, des manières d'être, etc., qui m'intéresse d'autant plus que, justement, nous, en tant que sociologues, on a des outils pour les analyser, qui sont ceux de la socialisation, c'est-à-dire, bah, si quelque chose n'est pas inné, alors c'est acquis, et donc pour nous c'est appris, ça s'apprend par socialisation, ça se transmet en famille, et ça m'a beaucoup intéressée, parce que justement, il me semble que ça permet de faire ce geste qui est essentiel, qui est de dénaturaliser la race et de vraiment prendre au sérieux le fait de la considérer comme une construction sociale. Si c'est une construction sociale, alors il y a des choses qui s'apprennent, et ça passe aussi par des choses qui ne sont pas de l'ordre du physique, du phénotypique. C'est aussi des manières d'être au monde qui ensuite vont orienter les manières qu'ont les uns et les autres, les unes et les autres, de nous catégoriser.
On continue de parler de la race comme une construction sociale dans la seconde partie de l'émission avec la metteuse en scène Rebecca Chaillon qui nous rejoint. C'est après un extrait du deuxième album de The Paranoid Style, I Love the Sound of Structured Class.
La suite dans les idées, Sylvain Bromeau.
Thinking life's a dream. Hanging out in Houston, waiting on a tip. Sowing the confusion so the package gets shipped. So many deliveries in so short a time. So many miseries in the traffic line. Don't give me the burden of diffract shine. Don't give me the inheritance of crystal glass. Don't give me advice. Don't give me a shiner. Don't give me your breakfast, don't give me your sass. Call your local precinct, put a call through to China. All the preachers from your colorful past. All the privileged discretion and that certain aggression. Do you love the sound of structured class? Still waiting on the lifeline from the kind of folks who share opinions like mine. I have spent time in education, I have spent time in jail. I dug from the river basin, I have skied and bailed. Time in capsules, vitamin C. Everyone knows this is nowhere but me. Everyone knows this is Valhalla or bust. An unliving will and a living mistrust. For the devil is the last of your concerns. Bow down to your level and attend to your burns. I have seen strong men crying out for help. I have pulled books from a very high shelf. The next time you call me, make sure it's important. Withering on the vine, living by appointment. Everyone's outnumbered and no one has a pass. I love the sound of structured class.
Derrière le mythe métis, c'est le titre du livre de Solène Brun dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Carte noire, nommé désir, c'est le titre de l'un des spectacles qui tourne actuellement de Rebecca Chaillon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous. C'est un spectacle que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques mois, pour ma part, qui m'a profondément marqué, auquel je repense quotidiennement depuis et auquel j'ai spontanément pensé en lisant le livre de Solène Brun, Rebecca Chaillon. Vous aussi, vous prenez comme objet dans ce spectacle la question de la race, dans ce contexte français dont nous avons eu l'occasion de parler, qui ne rend pas cela toujours très facile, en fait.
C'est ça, c'est important pour moi. De le poser à cet endroit-là, presque sociologique aussi, de se dire c'est quoi être noir, c'est quoi être femme, c'est quoi être ces deux endroits en même temps, depuis la France, et puis j'ai un peu ouvert à la Suisse et à la Belgique.
Alors vous aussi, vous mettez en place des dispositifs expérimentaux. Il s'agit absolument pas de réduire le spectacle à ça, mais ça a suscité beaucoup de réactions parce que vous proposez aux femmes noires qui viennent voir le spectacle de s'asseoir ailleurs que tous les autres spectateurs, en fait. Ça c'est une manière aussi de proposer une expérience à tout le monde, qu'on soit assis d'un côté ou de l'autre, en fait.
Bah oui, je crois que c'était vraiment ça. C'était vraiment l'idée de mettre en jeu la question du point de vue et de se dire un point de vue situé, c'est quoi ? Ben mettons-le en jeu. On va le comprendre tout de suite. C'est quoi le regard qui est posé sur nous et c'est quoi le regard qu'on pose sur le reste du monde. Et donc cette invitation d'un dispositif bifrontal où les femmes et les personnes queer noires qui le désirent peuvent aller s'asseoir en face, c'est ça pose toutes les questions. C'est-à-dire qu'à la fois on peut le voir comme un privilège, elles sont invitées dans un espace avec des petits canapés, on leur sert à boire, mais elles sont aussi plus exposées. Donc c'est toute la question aussi de prendre de la place pour parler de sa position, de sa condition. D'un seul coup, on est au centre, ça prend de la place, ça gêne, ça dérange, ça pose des questions.
Je le disais, vous êtes non seulement metteuse en scène, conceptrice de ce spectacle, mais vous l'avez écrit aussi et vous jouez dedans. Comment vous avez travaillé pour parvenir à produire un spectacle qui est sociologique, qui est un spectacle d'idées aussi, j'ai envie de dire, Rebecca Chaillon?
Ben, je pense que c'est ça le démarrage, en fait. C'est que il y a un parcours qui est de découvrir un peu ma condition, on va dire, de femme cisgenre, et puis ma condition de personne non hétérosexuelle, puis ma condition de noire, et du coup un accès progressif, une autorisation à se dire je suis légitime à lire des essais, je suis légitime à lire des choses qui me concernent parce que je suis un être qui fait partie de cette société. Je suis pas juste je me sentais pas concernée par ces livres, sachant, et d'un seul coup les sujets sont là et je m'autorise. Et donc c'est vraiment un hommage à ça, un hommage aux universitaires, aux militants radicaux, aux personnes qui posent des mots, qui réfléchissent à des choses, qui d'un seul coup comblent des énormes creux. Donc c'est pour ça que le spectacle s'appuie fort comme ça sur la sociologie et sur des techniques militantes de réappropriation de son image et de sa culture.
D'ailleurs, vous avez sollicité, enfin le soir où j'y étais, c'était Leonora Miano qui était invitée exceptionnelle. Je crois que chaque soir, il y avait une personne différente pour porter la voix d'une comédienne qui n'était pas là dans ses représentations. Leonora Miano qui est venue à la suite dans les idées à peu près à ce moment-là pour parler de son livre sur la blanchité, d'ailleurs. Ça résonnait très très fort, en particulier et notamment avec cette scène d'ouverture du spectacle qui est très longue et qui est d'une puissance, je ne sais pas comment vous avez conçu cette scène. On a une femme sur la scène en train de laver avec de l'eau de Javel. On imagine le sol. Enfin, c'est la question de la couleur de la peau est posée au milieu du plateau.
C'est ça, dans un plateau qu'on a choisi de faire très carré, anguleux, froid, blanc. Où au sol il y a des petits trous comme ça qui représentent une carte de toutes les présences noires dans le monde, et puis c'est moi au centre qui frotte le plateau pendant très longtemps. La question c'était puisqu'on va parler des femmes noires et qu'on va le faire dans un théâtre, et en plus on le fait là quand vous l'avez vu à l'Odéon, qu'est-ce que c'est que la place des femmes noires dans l'institution théâtrale?
C'est très 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 long, et c'est bien que ce soit très 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 long.
Bah, c'est pas plus long que 4 siècles de colonisation et d'esclavage, hein, ou 6 siècles. Voilà, je me suis dit ça, on va parler de ça. Donc il n'y a pas moyen que ce soit une question qu'on traite. Je me rends bien compte que les publics qui regardent cette scène ont vite compris ce qui allait se passer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que les gens comprennent, c'est que les gens ressentent.
Qu'ils éprouvent.
Qu'ils éprouvent même. Et donc, il n'était pas question de proposer un spectacle sur ces sujets-là et de le faire gratuitement pour le public ou pour les publics. C'est une forme de pacte. Et le temps, là, fait partie de la dramaturgie, de l'écriture. On parle d'une situation qui dure depuis des siècles, et dont des personnes autour décident de maîtriser le temps et de ne pas offrir réparation plus vite, quoi. Donc il y a quelque chose qui est bloqué. Donc à mon tour, si on me demande de parler, de proposer quelque chose, alors oui, il va s'agir de travailler sur le temps. Voilà.
Solène Brun, vous avez vu Carte noire nommée Désir?
Je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Et d'ailleurs, moi, le soir où j'y étais, c'est Mam Fatou Nyong, une collègue universitaire qui faisait la voix de cette comédienne, qui d'ailleurs n'était pas là parce que le spectacle a suscité des réactions racistes.
À Avignon, notamment.
Voilà. Et en effet, je l'ai trouvé d'une puissance incroyable. J'ai trouvé le dispositif excellent pour justement venir particulariser la blanchité, c'est-à-dire que là, tout à coup, au moins pour un soir, personne ne pouvait échapper à sa position raciale. Tout le monde savait, en tout cas, que des femmes noires et des personnes queer pouvaient être assises à un endroit plus confortable. Mais comme le dit Rebecca Chaillon aussi, face à l'autre partie du public, donc aussi très très exposée. Mais que les personnes qui, du coup, restaient de leur côté prévu de la salle, restaient là parce que, précisément, il et elle n'étaient pas noirs. Et la plupart d'entre elles et eux étaient et sont des personnes blanches. Et je pense que cette expérience, et ça m'étonne d'ailleurs malheureusement pas d'avoir... Enfin, d'avoir lu, et ça me désole, mais il y a une part de moi qui suis pas très étonnée que ça ait suscité finalement autant de réactions violentes, parce que la particularisation, le fait de nommer, ça a cet effet, en fait, ça a cet effet de créer des réactions épidermiques chez des personnes qui, comme je le disais en première partie de l'émission, naviguent le monde dans l'insouciance et dans le fait d'incarner cette neutralité, le fait de ne pas être nommé, de ne pas être catégorisé. Et en fait, c'est violent de l'être, mais il se trouve que les personnes non blanches et les personnes noires, a fortiori, elles, c'est une expérience quotidienne et donc sont très habituées. Et je pense que ce dispositif-là bifrontal est vraiment... Et excellent comme manière d'éprouver les choses, et je trouve ça vraiment génial, je trouve ça très bien pensé, et le spectacle est magnifique.
Bon, ça, il y a eu certaines réactions, en particulier effectivement très très vives et violentes à Avignon, mais il n'y a pas que ces réactions-là. Ça fait maintenant assez longtemps que vous montrez ce spectacle, Rebecca Chaillon. Quelles autres réactions, peut-être plus intéressantes, vous rencontrez?
Bah, évidemment, j'ai aussi beaucoup de discussions avec les personnes qui vivent le public, privilégié, on va dire, de l'autre côté. Donc, pour la première fois, un spectacle dont le point de départ, c'est leur situation. De voir des corps divers, des histoires diverses de femmes noires au plateau, et pas juste être une parmi un groupe de blancs, d'un seul coup de voir là 8 personnes, voire plus, qui parlent d'expériences vécues depuis ce point de vue, c'est hyper fort et parfois violent, parce qu'on va pas avec le dos de la cuillère, et que le but c'était pas de faire un spectacle réparateur. C'est un spectacle qui questionne tout ce qui existe en moi, toutes les parties, c'est-à-dire la partie d'être perçue comme noire et d'avoir grandi dans une famille noire, mais aussi d'avoir vécu 35 ans, 38 ans dans un monde majoritairement blanc, avec une culture majoritairement blanche. Et quand on évolue dans le théâtre, on peut pas ne pas se poser la question. Donc moi, j'avais envie de secouer tout le monde. J'avais envie qu'on se pose des questions aussi sur nos communautés noires et sur l'injonction à la respectabilité, ou sur est-ce que nous, femmes noires, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce que on doit absolument savoir twerker? Est-ce qu'on doit absolument... c'est quoi nos réactions face aux différentes classes sociales? Quand on est caraïbéenne et quand on est africaine, on n'a pas les mêmes vécus. Est-ce qu'on arrive à gérer ça? Et puis le colorisme entre nous aussi, ce sont des questions même nous, à l'intérieur du groupe, on commence à comprendre qu'il y a d'autres enjeux, des questions qu'il faut qu'on se pose entre nous. Parce que là, il y a en effet des personnes métisses, des personnes dark skin, des personnes caraïbéennes, des personnes d'origine africaine, et puis des personnes qui ont d'autres questions à traiter. Des questions de maternité, de handicap, de... Voilà. Et donc, toutes ces questions-là, elles sont aussi de travail pour nous tout le temps.
Ce colorisme, évidemment, vous l'avez rencontré, Solène Brun, dans votre enquête sur la condition métisse. Mais ce colorisme, il existe. Il suffit d'aller dans certains pays d'Afrique où il y a des gens dont on se rend compte qu'entre eux, il y a des formes de catégorisation qui nous échappent quand on n'a pas l'habitude, tout simplement.
Et oui, mais en fait, cette question, elle est centrale, parce que elle est au cœur de la matrice de la race depuis en fait les débuts de la racialisation du monde, et son incarnation notamment à travers l'esclavage, puisque le colorisme structure en réalité l'esclavage. On est en réalité pas traité de la même manière si on a la peau claire ou la peau la plus sombre. Et pour le coup, depuis tous ces siècles, la peau claire, et plus on est clair, plus on est valorisé. Et c'est valable depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. On a des enquêtes aux États-Unis qui montrent que les personnes noires à la peau plus claire ont des meilleurs salaires, des meilleurs états de santé, sont évidemment valorisées esthétiquement et donc sont mieux positionnées sur le marché matrimonial, sur le marché de l'emploi, etc. Et ça, en fait, c'est essentiel parce que c'est aussi cet envers du mythe métis. Je pense que c'est quelque chose de central, c'est que les discours amélioratifs sur le métissage et la manière de constamment célébrer le métissage, y compris comme une solution au racisme, sont envers, il me semble, et quasi systématiquement la dévalorisation des personnes non blanches, non métisses, en particulier des personnes noires, et que derrière chaque célébration de beauté métisse ou de métissage de manière un peu irénique et sans en oubliant les rapports de pouvoir, se cache une négrophobie d'autant plus forte, et c'est-à-dire que il y a un peu cette idée, et c'est d'ailleurs ce que disait déjà Pape Ndiaye dans La Condition Noire, que on aime bien les Noirs quand ils sont finalement proches de la blanchité. Et donc, plus ils sont clairs, mieux c'est.
C'est une question importante. Il y a un très beau livre de Colson Whitehead qui s'appelle Apex sur cette question et sur la couleur des pansements, Rebecca Chaillon.
Oui, que je ne connais pas encore. Pardon, j'étais en train de penser à une réplique du spectacle qui dit « Nous sommes métis, un mélange de couleurs », enfin la chanson de Yannick Noah, mais qui se continue par « Mais pas par le désir de nos parents consentants », pour parler de ça, de cette chose-là. Ouais. Pardon,
le spectacle prend des formes très différentes, fait appel à des émotions extrêmement différentes. L'humour, il tient un rôle très important aussi, Rebecca Chaillon.
Bah oui, pourquoi se fâcher tout de suite? moi j'ai de l'humour, donc c'est moi qui propose l'objet, donc j'ai envie de le traiter avec toutes mes manières de le percevoir, parfois avec humour, parfois avec tendresse, parfois avec énormément de violence, et puis voilà, c'est sûr que je me ménage pas sur cette question de la javel, puisque les choses elles sont faites en vrai et qu'on met en jeu tout de suite ce qu'on dénonce ou ce qu'on questionne, la question du blanchiment de peau ou la question d'aller un peu plus vers une, être acceptée en tout cas un peu plus en étant plus blanche, c'est une question qu'on pose mais qu'on réalise presque au sein du spectacle tous les soirs, quoi.
Vous avez noté, comme Solène Brun tout à l'heure qui parlait de The Talk, des changements dans ces années plus récentes sur la possibilité en France de parler, de mettre en scène ces sujets, des formes de progrès, pourquoi ne pas le dire comme ça?
Oui, j'ai entendu ça. Oui, c'est un progrès, c'est sûr. En tout cas, pour ma part, je vois bien que les personnes qui m'entourent, les personnes qui peuvent parler de ça, parler de ce spectacle, être invitées au plateau, et puis le fait d'avoir pu inviter comme ça 15 personnes qui font aussi ce boulot-là, de dénoncer par leur discipline, par leurs médias, de parler de ces questions, de les étudier, de les analyser, de les rendre visibles. Je vois bien qu'on est de plus en plus nombreuses et que dans la salle, c'est ce que je disais le dernier soir à l'Odéon, il y a plus de 600 femmes noires qui sont venues voir le spectacle à l'Odéon sur les 15 jours, et je me dis que du coup quelque chose bouge dans le public. Déjà, dans les personnes qui se disent « Ah, c'est possible, en fait, quelque chose existe, on peut venir en parler, et donc du coup, est-ce que moi aussi je peux venir parler de ma version ou de mes choses à l'Odéon ? Est-ce que c'est un one-shot ? Ou est-ce que quelque chose va durer, quoi ?»
Carte noire nommée Désir, j'imagine que le spectacle va continuer de tourner dans les prochaines semaines et dans les prochains mois en France. On va mettre quelques dates sur le site de l'émission. Je rappelle le titre du livre de Solène Brun dont nous parlions en première partie. Derrière le mythe métis, enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France. Il paraît aux éditions La Découverte, et la référence figure aussi sur la page de La Suite dans les idées, une page où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Juliette Mouélic, à la technique aujourd'hui, Noé Chaban, à la réalisation, Cassandre Puel.